Chapitre 10. C'était le lendemain de notre banquet et nous étions de nouveau à bord du vaisseau spatial. C'est-à-dire que l'androïde Abétique et moi étions présents à bord, après avoir pris de manière plus commode qu'à l'aller, le souterrain reliant les deux tours et que Martin Silenus était avec nous sous la forme d'un hologramme. L'image était curieuse, dans la mesure où le vieux poète avait choisi de se faire représenter par l'ordinateur de bord sous une forme plus jeune, celle d'un vieux satyre, certes, mais qui tenait sur ses propres jambes et avait des cheveux sur son crâne aux oreilles en pointe. Regardant le poète avec sa cape marron, sa chemise à manches longues, son pantalon bouffant et son béret mou, je me dis qu'il devait être un sacré dandy à l'époque où ce genre de costume était à la mode. J'avais devant mes yeux le Martin Silenus des Cantos tel qu'il devait être quand il était revenu en tant que pèlerin sur Hyperion, 3 siècles plus tôt.
Vous allez me dévisager longtemps comme un putain de bouseux de merde ?
Me demanda l'image holo.
Où pouvons-nous finir cette foutue visite avant de passer aux choses sérieuses ?
Le vieillard devait avoir la gueule de bois après ses libations de la veille. Ou il avait peut-être retrouvé suffisamment d'énergie pour être d'une humeur encore plus détestable que précédemment. Après vous, lui dis-je. Dans le souterrain, nous avions pris un ascenseur qui nous avait conduit à l'entrée du sas inférieur du vaisseau. De là, Abétique et l'image holo du poète m'avaient précédé dans les étages. D'abord, la chambre des machines, avec ses instruments incompréhensibles et ses enchevêtrements de tuyaux et de câbles. Puis l'étage du sommeil froid, où se trouvaient les 4 couchettes cryotechniques dans leur compartiment super froid. Il manquait une couchette enlevée par Martin Silenus pour être utilisée dans sa tour. Nous grimpâmes ensuite à l'étage central que j'avais déjà exploré la veille. Les boiseries dissimulaient une multitude d'espaces de rangement qui contenaient, entre autres curiosités, des combinaisons spatiales, des véhicules tout-terrain, des scooters atmosphériques et même quelques armes archaïques. Nous passâmes ensuite dans la zone de séjour avec son Steinway et sa fosse holo, puis empruntâmes l'escalier en spirale pour grimper dans ce que Abétique appelait la chambre de navigation. Il y avait là, effectivement, un compartiment où se trouvaient quelques instruments électroniques de navigation, mais j'y vis surtout une bibliothèque aux rayons bourrés de volumes, de vrais livres imprimés, et meublés de plusieurs fauteuils et lits de repos disposés à proximité des hublots. Pour terminer la visite, enfin, nous grimpâmes dans le nez du vaisseau, occupé par une chambre à coucher circulaire avec un lit au milieu.
Le consul aimait voir d'ici le temps qu'il faisait tout en écoutant de la musique,
déclara Martin Silenus.
Vaisseau ?
La cloison arrondie devint transparente, de même que toute la proue du vaisseau au-dessus de nous. Il n'y avait autour de nous que les pierres sombres de l'intérieur de la tour, mais le toit délabré du silo laissait filtrer de la lumière. Soudain, une douce musique envahit la chambre. C'était du piano, sans accompagnement, et la mélodie ancienne avait quelque chose d'envoûtant. Tchersivik, conjecturai-je.
Rachmaninov,
renifla dédaigneusement le vieux poète, dont les traits de satyre semblaient soudain adoucis par la lumière filtrée.
Savez-vous qui est l'interprète ?
J'écoutais attentivement. Le soliste était excellent, mais je n'avais pas la moindre idée de son identité. « Le consul, » me dit l'androïde d'une voix extrêmement douce. Martin Silenus laissa entendre un grognement bougon.
« Vaisseau, coque opaque !»
ordonna-t-il. La paroi s'opacifia. L'image holo du vieux poète disparut de l'endroit qu'elle occupait près de la cloison et se reconstitua devant l'escalier en spirale. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela, et l'effet était pour le moins déconcertant.
« Bon, » dit-il, « si cette putain de visite est finie, redescendons dans le living et voyons comment on peut faire pour baiser la Pax. »
Les cartes étaient anciennes, du papier et de l'encre, et s'étalaient sur le couvercle verni du piano à queue. Le continent d'Aquila déployait ses ailes au-dessus du clavier, et le promontoire chevalin d'Equus était à moitié roulé un peu plus loin sur une autre carte. L'image holo de Martin Silenus s'avança sur ses jambes étonnamment solides pour enfoncer un doigt à l'endroit où aurait dû se trouver l'œil du cheval.
« C'est ici, »
dit-il.
« Et ici. »
Son doigt immatériel ne faisait aucun bruit sur le papier.
« Le pape a déployé ses putains de troupes sur toute la route qui va de la forteresse de Chronos à ce point. »
Le doigt virtuel s'abattit sur l'endroit où finissait la chaîne bridée, à l'est, juste derrière l'œil.
« Jusqu'au mufle, »
reprit-il.
« Et ils ont des engins aériens à cet endroit dans la foutue cité de Billy le Triste. »
Son doigt silencieux toucha un point situé à quelques kilomètres à peine au nord-ouest, dans la vallée des tombeaux du temps.
« Ils ont également massé des gardes suisses dans la vallée, ici. »
J'examinais la carte. Hormis la cité des poètes abandonnés et la vallée, tout le quart supérieur des Cuus ne représentait qu'un désert inaccessible à tout le monde depuis 2 siècles que les troupes de la Pax en interdisaient l'accès. « Comment savez-vous que la garde suisse est ici ? » voulus-je savoir. Les sourcils du satyre s'arquèrent.
« J'ai mes sources, »
répondit-il. « Vos sources vous ont-elles indiqué les noms des unités et leurs armements ?» L'image holo émit un bruit qui donnait l'impression que le vieillard allait cracher sur la moquette.
« Vous n'avez pas besoin de ces détails. Contentez-vous de savoir qu'il y a 30 000 soldats entre vous et le sphinx où Aîné doit émerger demain. 3 000 de ces hommes sont des gardes suisses. Et maintenant, comment comptez-vous franchir leur ligne ?»
Je faillis me mettre à rire. Je doutais que la garde nationale d'Hyperion tout entière, même avec un support aérien et spatial, pu s'infiltrer dans une zone défendue par une demi-douzaine de gardes suisses, tant leurs armes, leur entraînement et leur système défensif étaient efficaces. Mais, au lieu de m'esclaffer, j'étudiais de nouveau la carte avec attention. Vous dites que leurs engins aériens sont basés dans la cité des poètes. Savez-vous de quel type d'engin il s'agit ? Le vieux poète haussa les épaules.
Des chasseurs. Les VEM ici, ça vaut de la merde. Ils ont amené des avions à réaction.
Mais de quel type, insistai-je? Turbo, stato ou aérobie? J'essayais de donner l'impression de savoir de quoi je parlais, mais mes connaissances militaires, glanées dans la garde nationale, consistaient surtout à être capable de démonter mon arme, de la nettoyer, de faire feu avec, de crapahuter avec, dans les pires conditions atmosphériques, sans la mouiller, de prendre quelques heures de sommeil quand je n'étais occupé à aucune de ces autres opérations, de ne pas geler à mort pendant mon sommeil et, à l'occasion, de baisser la tête pour échapper à une balle tirée par un embusqué d'Ursus.
« Qu'est-ce que ça peut foutre, le type d'avion ?»
grogna Martin Silenus, dont le rajeunissement de 3 siècles n'avait certainement pas adouci les mœurs.
« Nous avons estimé leur vitesse à vaisseau. Quelle était la vitesse estimée de ces foutus chasseurs ?»«
Mach 3, » fit le vaisseau.
« Mach 3 !»
répéta le poète.
« Ça suffit pour qu'ils se pointent ici, réduisent les lieux en cendres et retournent sur le continent nord avant que leur bière ait eu le temps de devenir tiède. »
Je levai les yeux de la carte. Je me posais justement la question. Pourquoi ne le font-ils pas ? Il tourna la tête de mon côté.
« Pourquoi ne font-ils pas quoi ? » ?»«
Se pointer ici, réduire tout en cendres et retourner boire leur bière encore fraîche à leur base. » Vous représentez pour eux une menace. Pourquoi tolèrent-ils votre présence ? Martin Silenus laissa entendre un grognement.
« Je suis mort. C'est ce qu'il croit. Comment un mort peut-il représenter une menace ?»
Je soupirai et me penchai de nouveau sur la carte. Il doit y avoir un transport de troupes en orbite, mais je suppose que vous ignorez de quel vaisseau était composée leur escorte. Je fus surpris d'entendre la réponse par la voix du système de bord. Le transport de troupes est un vaisseau de spin de 300 000 tonnes de la classe Akira, escorté par 2 vaisseaux torches standards de la Pax, le Saint-Antoine et le Saint-Bonaventure. Il y a aussi un vaisseau C-cube en orbite haute.
« Qu'est-ce que c'est qu'un putain de vaisseau C-cube ? »
grommela l'image holo du poète. Je lui jetai un coup d'œil étonné. Comment peut-on avoir vécu 1 000 ans et ignorer une chose pareille. Les poètes sont décidément des gens étranges. « Commandement, contrôle et communication », expliquai-je.
Donc le fils de pute qui dirige toute l'opération est là-haut.
Je me frottai la joue en contemplant la carte. Pas nécessairement. Le commandant de la force d'intervention spatiale doit y être, mais celui qui dirige tout est peut-être sur le terrain. La Pax forme ses commandants à assurer des opérations combinées. À voir le nombre de gardes suisses au sol, on peut penser qu'il y a quelqu'un de très important à leur tête.
Très bien,
fit le poète.
Comment comptez-vous franchir leur ligne et récupérer ma petite copine?
Pardonnez-moi, nous dit le vaisseau, mais il y a un autre engin spatial en orbite. Il est arrivé il y a environ 3 semaines standard, et il a envoyé un vaisseau de descente dans la vallée des tombeaux du temps. Un engin de quel type? Demandai-je. La voix marqua une légère hésitation. Je ne sais pas. C'est une configuration que je ne connais pas. Il est petit, un peu comme un courrier, mais le profil de propulsion est étrange.
C'est probablement un courrier, estimai-je. Le pauvre diable doit être en état de fugue cryotechnique depuis des mois, ce qui se soldera pour lui par des années de déficit de temps. Uniquement pour remettre un message que Pax Central a oublié de donner au commandant avant son départ.
La main au lot de Silenus balaya de nouveau une partie de la carte.
Revenons à nos moutons,
dit-il.
Comment allez-vous vous y prendre pour faire échapper Aîné à ses empapaoutés?
Je m'écartai du piano pour répliquer d'une voix où perçait ma fureur.
Comment voulez-vous que je sache? C'est vous qui avez eu 2 siècles et demi pour préparer cette fuite insensée.
Je fis des mains un geste vaguement circulaire pour indiquer le vaisseau.
« Je suppose que cet engin est notre seul atout pour distancer les vaisseaux de la Pax ?»
Je marquai une pause.
« Vaisseau, êtes-vous capable d'aller plus vite qu'un vaisseau torche de la Pax en translation C+ ?»
Tous les propulseurs Hawking étaient capables d'atteindre la même pseudo-vitesse supraluminique, naturellement, et notre salut ou notre capture, notre survie ou notre destruction dépendaient de cette course vers le point quantique.
« Bien sûr, » répondit aussitôt le vaisseau. « Certaines parties de ma mémoire sont absentes, mais je sais que le consul m'a fait modifier à l'occasion d'un séjour dans une colonie extro. »
« Une colonie extro, » répétai-je stupidement. J'en avais la chair de poule, contre toute logique. J'avais été élevé dans la crainte d'une nouvelle invasion extro. Les extros étaient nos croque-mitaines.
« Oui, »
fit le vaisseau avec quelque chose comme une pointe de fierté dans la voix. Nous passerons en surgiration pour atteindre des vitesses C+, avec une rapidité supérieure d'environ 23% à celle des vaisseaux torches de la flotte.
Ils peuvent nous anéantir avec leurs missiles à 1/2 UA de distance,
répliquai-je, guère convaincu.
C'est vrai, reconnut le vaisseau. Mais il n'y a pas de souci à se faire, à condition d'avoir 15 minutes d'avance au départ.
Je me tournai vers l'image Holo qui fronçait les sourcils à côté de l'androïde silencieux.
Si c'est vrai, c'est très bien, déclarai-je. Mais ça ne me dit pas comment amener la fillette jusqu'au vaisseau, ni comment quitter Hyperion avec les 15 minutes d'avance demandées.
Les vaisseaux seront en formation POC, c'est-à-dire en patrouille orbitale de combat. À chaque seconde, il y en aura au moins un au-dessus des Kouus qui couvrira chaque mètre cube d'espace à partir de 100 minutes-lumière de distance jusqu'à la haute atmosphère. À 30 000 mètres d'altitude, c'est la patrouille de combat aérien qui prend la relève. Ils ont probablement des chasseurs pulsants de la classe Scorpion, capables de se turbopropulser en orbite basse si nécessaire. En aucun cas, les patrouilles spatiales et atmosphériques ne nous laisseront prendre 15 secondes d'avance sur leurs écrans, et encore moins 15 minutes.
Je dévisageais l'image du vieux poète rajeuni.
À moins qu'on ne me cache encore quelque chose, ajoutai-je.
Vaisseau, est-ce que les extros vous ont équipé d'une espèce de technologie furtive ou même magique? Un écran d'invisibilité? Quelque chose comme ça?
Pas à ma connaissance, fit le vaisseau, qui ajouta au bout d'une seconde.
Vous croyez que ce serait possible?
Écoutez, dis-je à Silenus en ignorant le vaisseau.
J'aimerais bien vous aider à retrouver cette fille.
Aîné!
J'aimerais bien aider Aîné à échapper à ces gens, mais si elle est aussi importante que vous le dites pour la Pax, 3 000 gardes suisses, vous vous rendez compte? Personne ne pourra s'approcher à moins de 500 kilomètres de la vallée des tombeaux du temps, même avec un vaisseau suréquipé comme celui-ci.
Malgré la distorsion holo,
Je vis briller une lueur de doute dans le regard de Silénus.
« Je ne plaisante pas, » affirmai-je, « même en l'absence de couverture aérienne et spatiale, même s'il n'y avait ni vaisseau-torche, ni chasseur, ni radar, il resterait la garde suisse. »
Je m'aperçus que je serrais les poings en parlant et me forçais à me relaxer.
« Ces types-là sont redoutables, » continuai-je. « Ils sont entraînés à travailler par équipe de 5, et une seule de ces escouades peut venir à bout d'un vaisseau comme celui-ci. »
Les sourcils du satyre se plissèrent de surprise ou de doute.
« Écoutez, » repris-je.
« Vaisseau ?»«
Oui, H. Endymion. »
« Disposez-vous de boucliers défensifs ?»«
Non, H. Endymion. Je dispose de champs de confinement améliorés par les extros, mais ils sont à usage civil. »
J'ignorais ce qu'était qu'un champ de confinement amélioré par les extros, mais je poursuivis. Pourrait-il arrêter un RCC ou un missile standard de vaisseau-torche?
Non.
Pourriez-vous échapper à des torpilles C+, ou cinétiques conventionnelles?
Non.
Les distancer peut-être?
Non.
Êtes-vous capable d'empêcher d'entrer une expédition d'accostage?
Non plus.
Possédez-vous des capacités défensives ou offensives de taille à lutter contre les croiseurs de la Pax?
À part celle de filer comme un dératé, H. Endymion, je n'en possède aucune, répondit le vaisseau.
Je me tournai de nouveau vers Martin Silénus.
Nous sommes baisés, lui dis-je à voix basse. Même si j'arrive jusqu'à la fillette, ils me captureront en même temps qu'elle.
Pas forcément,
répondit Martin Silénus avec un sourire. Il fit un signe de tête à l'androïde et celui-ci grimpa les marches de l'escalier en spirale. Il fut de retour moins d'une minute plus tard, muni d'une espèce de cylindre ou de rouleau.
« Si c'est une arme secrète, déclarai-je, elle a intérêt à être bonne. »«
Elle l'est, »
me répondit Lolo ricanant du poète. Il fit un nouveau signe de tête et Abétique déroula le cylindre.
C'était un tapis, d'un peu moins de 2 mètres de long et d'un peu plus d'un mètre de large.
Ses bords étaient effrangés et ses couleurs étaient passées, mais je distinguais néanmoins ses motifs complexes et les fils d'or de sa trame qui étaient demeurés aussi vifs que
« Oh, mon Dieu !»
m'écriai-je frappé comme par un coup de poing soudain dans le plexus solaire.
« Un tapis Hawking ! »
L'image holo de Martin Silénus se racla la gorge comme si elle se préparait à cracher.
« Non, pas un, mais le tapis Hawking. »
Je fis un pas en arrière. J'avais devant moi un objet de pure légende et j'avais failli le fouler aux pieds. Il n'avait jamais existé au monde que quelques centaines de tapis Hawking et celui-là était le tout premier. Fabriqué par Vladimir Cholokov, maître lépidoptériste et légendaire inventeur en système EM, peu après la destruction de l'ancienne Terre. Cholokov, déjà âgé à l'époque de plus de 70 années standard, était tombé éperdument amoureux de sa nièce, encore adolescente, nommée Alotila, et avait créé ce tapis volant pour la séduire. Après un interlude passionné, l'adolescente avait repoussé le vieil homme. Cholokov s'était donné la mort sur la nouvelle Terre quelques semaines à peine après avoir mis au point la propulsion Hawking actuelle, et le tapis avait été perdu durant des siècles, jusqu'à ce que Mike Osho l'achète un jour sur la place du marché de Carvenel et l'emporte avec lui sur Alliance Maui, où il s'en était servi avec son compagnon de bord, Merin Aspic, lors de ce qui devait devenir une deuxième légendaire histoire d'amour, celle de Merin et Siri. Tout cela, naturellement, avait été relaté dans les cantos de Martin Silénus, et Siri, s'il fallait en croire ce récit, était la grand-mère du consul. Dans les cantos, le consul de l'hégémonie utilisait ce même tapis Hawking, avec un H minuscule par référence au faucon de l'ancienne Terre, et non au savant pré-égyrien dont les travaux avaient conduit à l'invention du propulseur interstellaire supraluminique, ou C+, pour voyager dans l'atmosphère d'Hyperion en un vol épique qui le conduisait de la vallée des tombeaux du temps à la cité de Kitz pour libérer le vaisseau dans lequel je me trouvais en ce moment et retourner avec dans les tombeaux. Je me mis à genoux pour toucher l'objet avec révérence.
Dieu du ciel !
Me dit Silénus.
Ce n'est qu'un putain de tapis ! Et moche encore ! Je n'en voudrais pas chez moi ! Il jurerait avec tout le reste !
Je levai les yeux vers Abétique.
Oui, me dit l'androïde. C'est bien le même tapis Hawking.
Et il fonctionne toujours ?
L'androïde s'agenouilla à côté de moi et tendit sa main bleue pour toucher l'un des motifs complexes. Le tapis devint aussitôt rigide comme une planche et se souleva pour flotter à 10 centimètres du sol.
« Je n'ai jamais compris comment c'était possible, » murmurai-je en secouant la tête. « Le champ magnétique sur Hyperion est trop instable. Aucun système EM ne peut marcher. »«
Les gros systèmes ne fonctionnent pas, c'est vrai, »
intervint Martin Silénus.
Les barges de lévitation, les VEM par exemple. Mais ce tapis, c'est différent. Et il a été amélioré.
Je haussai un sourcil.
Amélioré ?
Toujours les extros, fit la voix du vaisseau. Je ne me souviens pas bien, mais ils ont touché à pas mal de choses lors de notre visite chez eux, il y a 2 siècles et demi.
Je vois, déclarai-je en me redressant. J'effleurai du bout du pied le tapis légendaire. Il oscilla comme s'il était ancré sur des ressorts, mais reprit sa position initiale.
« Très bien, » murmurai-je. « Nous disposons donc du tapis de Mérine et Ciri, qui, si je me souviens bien des Cantos, volait à quelque chose comme 20 km à l'heure ?»«
26 km au maximum, » précisa Abétique.
Je hochai la tête et poussai de nouveau le tapis flottant.
« Mettons 26 à l'heure si le vent est favorable, » répliquai-je. « Et la vallée des tombeaux du temps est à combien de kilomètres d'ici ?»«
1689, »
fit aussitôt le vaisseau.
« Dans combien de temps Aînée sortira-t-elle du sphinx ?»«
Dans 20 heures, »
me dit Martin Silénus. Il avait dû se lasser de son image rajeunie, car la représentation holo que j'avais maintenant devant moi était celle que j'avais vue la veille, au complet, avec son lit flottant.
« Je suis en retard, » ironisais-je en affectant de consulter ma montre de poignet.
« Ah, j'aurais dû partir avant-hier. »
Je retournais devant le piano à queue.
« Et même à supposer que je sois parti alors, » repris-je, « c'est cela mon arme secrète ?» Il y a un super champ de protection autour pour m'abriter et abriter cette fillette des balles et des missiles de la garde suisse ?
Non, répondit Abétique. Le tapis ne possède aucune capacité défensive. Le champ de confinement ne sert qu'à dévier le vent et à maintenir les occupants en place.
Je haussai les épaules. Qu'est-ce que je suis censé faire avec, dans ce cas ?
L'emmener avec moi dans la vallée pour l'offrir à la Pax en échange de l'enfant ?
Abétique était toujours à genoux devant le tapis flottant, dont ses doigts bleus caressaient les fibres décolorées.
Les extros l'ont modifié de manière qu'il conserve plus longtemps sa charge, à 1 millier d'heures environ.
Je hochai la tête. La technologie à base de supraconducteurs était impressionnante.
Mais de quelle utilité pour moi ? Sa vitesse dépasse à présent 300 km à l'heure, poursuivit l'androïde.
Je me mordillais la lèvre.
Je pouvais donc effectivement y être à temps, à condition d'avoir envie de rester assis sur un tapis volant pendant 5 heures et demie. Mais que se passerait-il ensuite ?
Je croyais qu'il fallait l'enlever à bord de ce vaisseau, murmurai-je. Que nous devions quitter le système d'Hyperion et tout ça ?
C'est exact,
me dit Martin Silénus d'une voix aussi fatiguée que sa très vieille image.
Mais d'abord, il faut l'amener dans le vaisseau.
Je m'écartai du piano, m'arrêtai devant l'escalier en spirale et fis volte-face pour regarder tour à tour l'androïde, la représentation holo et le tapis flottant.
« Vous ne voulez pas comprendre !»
accusai-je d'une voix plus forte et plus aiguë que je ne l'aurais voulu.
« Ce sont des gardes suisses ! Si vous croyez que ce foutu tapis va me faire échapper à leur radar, à leur détecteur de mouvement et à leur capteur de toutes sortes, c'est que vous êtes vraiment dingue ! Je serai une cible rêvée pour eux, comme un canard qui bat des ailes à 300 km à l'heure. Croyez-moi, les gardes suisses au sol, sans parler des chasseurs pulsants ni des vaisseaux torches en orbite,
ne mettrait pas plus d'une nanoseconde pour anéantir ce truc. »
Je m'interrompis alors pour les regarder en plissant les yeux.
«
À moins que vous ne m'ayez pas tout dit ? Il y a autre chose ?»«
Naturellement, »
fit Martin Silenus avec son sourire de satyre.
« Il y a autre chose. Portons le tapis Hawking à la fenêtre de la tour, »
ajouta-t-il en s'adressant à l'androïde.
« Il va falloir qu'il apprenne à s'en servir. »«
Maintenant ? » demandai-je d'une voix soudain timide. Mon cœur s'était mis à battre très fort.
« Et maintenant ?»
dit le vieux poète.
« Il faut que vous sachiez le faire voler avec précision d'ici demain 3 heures, lorsque vous partirez. »«
Vous croyez ?» demandai-je en regardant le tapis. « Je ne rêve pas, » me disais-je pour la première fois. « Je vais peut-être mourir demain. »«
J'en suis sûr, »
fit Martin Silenus. Abétic désactiva le tapis Hawking et le roula. Je le suivis dans l'escalier métallique, puis dans le corridor qui menait à l'escalier de la tour. Le soleil pénétrait à flots par la fenêtre ouverte du vieil édifice.
« Mon Dieu !»
me dis-je tandis que l'androïde étalait le tapis sur le rebord de pierre pour l'activer. La chute était longue jusqu'en bas.
« Mon Dieu !»
me répétais-je en entendant mon pouls battre précipitamment à mes oreilles. L'image holo du vieux poète n'était plus avec nous. Abétic me fit signe de grimper sur le tapis. « Je vous accompagne pour votre premier essai, » me dit-il. Il y avait une légère brise qui agitait les feuilles à la cime du chalme voisin.
« Oh mon Dieu !»
me dis-je encore en me hissant sur le rebord pour m'installer sur le tapis. Chapitre 11. 2 heures exactement avant le moment où l'enfant doit sortir du sphinx, une alarme sonne dans le glisseur de commandement du père capitaine de Soya. Contact aérien. Position 172 nord, vitesse 274 km, altitude 4 mètres. Fait la voix du contrôleur du périmètre de défense POC dans le vaisseau C3 en orbite à 600 km du sol. Distance de l'intrus, 570 km. 4 mètres ? S'exclame de Soya en regardant la commandante Barnes Avni, assise face à lui à sa console CIC dans la partie médiane du glisseur. « Il essaie d'échapper à nos systèmes de détection en rasant le sol », explique la commandante. C'est une petite femme à la peau diaphane et à la chevelure rousse. Mais le casque de combat qu'elle porte laisse apercevoir très peu de l'une et de l'autre. Depuis 3 semaines qu'il la connaît, il ne l'a jamais vue en train de sourire. « Visière tactique !» déclare-t-elle. Sa propre visière est déjà en place. De Soya abaisse la sienne. Le bip est dans la pointe sud d'Ekouius et se dirige vers le nord en suivant la côte. « Pourquoi ne l'avons-nous pas détecté avant ?» demande-t-il. « Il vient peut-être de partir. » Barnes Avni vérifie les paramètres de combat sur son écran tactique. La première heure a été un peu difficile lorsque De Soya lui a présenté son disque papal pour la convaincre que le commandement des meilleures brigades d'élite de la Pax devait être confié à un simple capitaine de vaisseau, mais sa coopération, depuis, a été totale. Bien entendu, De Soya lui laisse le soin de régler le détail des opérations. Pour beaucoup d'officiers des gardes suisses, il n'est qu'un simple agent de liaison du Vatican. Mais De Soya ne s'intéresse nullement à ce qu'il pense. Sa seule préoccupation est l'enfant. Tant que les troupes au sol sont bien dirigées vers cet objectif, les détails importent peu. « Pas de liaison visuelle, » l'informe la commandante. « Il y a des tempêtes de sable en bas. L'objet arrivera ici avant l'heure S. » L'heure S, c'est le nom de code depuis plusieurs mois pour l'ouverture du Sphinx. Seuls quelques officiers savent que l'enjeu du déploiement de toute cette puissance de feu est un enfant. Les gardes suisses ne protestent pas, mais ils n'apprécient sans doute pas cette mission éloignée, si loin de tout théâtre d'action, dans un environnement inconfortable et désertique. Le contact continue sa route vers le nord, position toujours 172, vitesse 259 km, altitude 3 mètres, énonce le contrôleur C3. Distance 570 km. Je crois qu'il est temps de l'abattre, suggère la commandante Barnes Avni sur leur liaison de commandement privé. Vos recommandations ?
De Soya lève la tête. Le glisseur est en train de virer sur l'aile en direction du sud. Au-delà des globes en œil de manta, l'horizon bascule et les bizarres tombeaux du temps défilent à toute vitesse 1000 mètres au-dessous d'eux. Au sud, la bande de ciel a une coloration jaune-brunâtre.
« Vous croyez qu'on peut le descendre depuis un bâtiment en orbite ? » demande-t-il.
Elle hoche affirmativement la tête, mais murmure
« Vous avez trop l'habitude des vaisseaux torches. Envoyons plutôt une escouade. »
Avec son gant tactique, elle touche des pastilles rouges à l'extrémité sud du périmètre défensif.
« Sergent Grégorius ?»
Elle s'est de nouveau branchée sur la bande tactique étroite.
« Commandante ?»
fait la voix du sergent, grave et rocailleuse.
« Vous captez le signal de l'intrus ?»«
Affirmatif, commandante. »
« Interceptez-le, identifiez-le et détruisez-le, sergent. »
« À vos ordres, commandante. »
De Soya regarde l'écran tandis que les caméras C3 zooment en direction du sud où se trouve le désert. 5 formes humaines apparaissent soudain derrière la crête des dunes. Leurs polymères caméléons deviennent invisibles tandis qu'elles surgissent derrière un nuage de sable. Sur un monde normal, elles se transporteraient dans les airs à l'aide de répulseurs EM. Sur Hyperion, elles portent sur le dos des paquetages à réaction beaucoup plus encombrants. Les 5 silhouettes se déploient de telle manière que plusieurs centaines de mètres les séparent et se dirigent vers le sud, droit sur le nuage de sable.
« Infrarouge !» ordonne Barnes Avni.
L'affichage passe en IR pour les suivre dans le nuage de plus en plus épais.
« Illumination de l'objectif !» commande Barnes Avni.
L'image s'oriente vers le sud, mais l'objectif n'est plus qu'un miroitement de chaleur.
« Trop petit !» fait la commandante.
Un avion ?
Le père capitaine de Soya a surtout l'habitude des affichages tactiques spatiaux.
Plus petit. À moins qu'il ne s'agisse d'une sorte de parapente motorisée.
Elle dit cela d'une voix neutre, totalement dépourvue de tension. De Soya la regarde tandis que leur glisseur survole l'extrémité sud de la vallée des tombeaux du temps, puis accélère. La tempête de poussière forme un bandeau brun-or devant eux, au-dessus de l'horizon.
Distance d'interception, 180 km.
Fait la voix laconique du sergent Grégorius. La visière de Soya est asservie à celle de la commandante, et ils voient tous les deux ce que voit le sergent de la garde suisse, c'est-à-dire rien du tout. L'escouade vole uniquement aux instruments à travers un vent de sable si épais que l'air est noir comme la nuit tout autour d'elle.
Les paquetages à réaction sont en surchauffe,
annonce une nouvelle voix très calme. De Soya vérifie sur son affichage. C'est le caporal qui.
Le sable bouche les entrées d'air,
ajoute la voix. À travers sa visière, De Soya regarde la commandante Barnes Avni. Il sait qu'elle a un choix difficile à faire. Une minute de plus dans ce nuage de sable et ce sera peut-être la mort d'un ou plusieurs de ses hommes. Quant à l'intrus, s'il n'est pas identifié immédiatement, il va leur causer de sérieux ennuis plus tard.
« Sergent Grégorius !» ordonne la commandante d'une voix aussi calme qu'un roc. « Éliminez immédiatement l'intrus !»
Il y a un bref silence sur la ligne, puis
« Commandante, nous ne pouvons continuer que pendant quelques... »
De Soya entend le hurlement de la tempête de sable qui couvre la voix du sergent.
« Immédiatement ! C'est un ordre, sergent !»
fait Barnes Avni.
« Affirmatif !»
De Soya passe en liaison tactique à longue portée et lève les yeux vers la commandante, qui le regarde.
« Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'une fin ?» demande-t-elle. « Une diversion destinée à monopoliser notre attention pendant qu'un véritable intrus s'infiltre à un autre endroit ?»«
Ce n'est pas impossible, » déclare De Soya. Il voit sur son affichage que la commandante a mis tout le périmètre de défense en état d'alerte de niveau 5. Le niveau 6 est celui du combat.
« On va bien voir. »
dit-elle juste au moment où les hommes de Grégorius font feu. La tempête de sable est un chaudron mouvant rempli de poussière et d'électricité. À 175 km de distance, les armes à énergie rayonnante ne sont pas fiables. Grégorius choisit une fléchette type pluie d'acier et la lance lui-même. La fléchette accélère jusqu'à Max 6. L'intrus ne dévie pas sa trajectoire d'un pouce.
Pas de capteur, à mon avis, fait Barnes Avni. Ils volent en aveugle. Programmé.
La fléchette dépasse la cible thermique et explose à une distance de 30 mètres. La charge creuse propulse les 20 000 aiguilles directement dans la direction de l'intrus.
Contact touché, fait le contrôleur C3 au moment même où le sergent Grégorius annonce « On l'a eu ».
Retrouvé et identifié, ordonne la commandante. Leur glisseur vient de se pencher sur l'aile en direction de la vallée. De Soya regarde à travers l'affichage de la visière. Elle a fait tirer à distance, mais elle n'a pas encore retiré ses hommes du nuage de sable.
« Bien reçu !» fait le sergent.
Le nuage est assez important pour perturber sérieusement la communication sur bande étroite. Le glisseur survole à présent la vallée à basse altitude, et De Soya a de nouveau l'occasion d'identifier les tombeaux qui se présentent dans l'ordre inverse de celui que connaissent habituellement les pèlerins. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de pèlerins ici depuis plus de 3 siècles. Il y a d'abord le palais du Gritch, celui qui est le plus au sud, avec ses embases et ses flèches hérissées évoquant le monstre lui-même, qui n'a pas été vu dans les parages depuis l'époque des pèlerins. Viennent ensuite les caveaux, à l'architecture plus subtile. Ils sont au nombre de 3 et leur entrée est creusée dans la roche rose de la paroi du canyon. Le suivant, le plus central et le plus vaste, est le monolithe de cristal. Puis il y a l'obélisque, le tombeau de jade, et finalement le sphinx avec ses ombres complexes, sa porte aujourd'hui scellée et ses ailes déployées. De Soya consulte sa montre. 1h56, lui dit la commandante Barnes Avni. Le père capitaine de Soya se mord la lèvre. Le cordon de garde suisse est en place autour du sphinx. Cela fait des mois qu'il est en place. Plus loin, d'autres troupes sont réparties sur un périmètre plus large. Chaque tombeau a son détachement de soldats en faction pour le cas où la prophétie serait inexacte. Passé la vallée, il y a encore d'autres troupes. Au-dessus de tout cela, il y a les vaisseaux torches et le vaisseau de commandement qui veille. À l'entrée de la vallée, c'est le vaisseau de descente privée de De Soya qui attend, ses réacteurs déjà chauffés, prêt à partir dès que l'enfant sous sédatif sera à son bord. Et, 2000 km plus haut, le Raphaël, vaisseau courrier de la classe Archange, attend avec sa couchette d'accélération à la taille de l'enfant. Préalablement, la fillette dont le nom est probablement aînée devra recevoir le sacrement du cruciforme. La cérémonie aura lieu dans la chapelle du vaisseau torche Saint Bonaventure, en orbite, quelques instants avant le transfert de l'enfant dans le courrier. 3 jours plus tard, elle sera ressuscitée sur Passem et livrée aux autorités de la Pax. Le père capitaine de Soya passe le bout de sa langue sur ses lèvres sèches. Il se fait un peu de soucis à l'idée que l'on puisse faire du mal à cette petite fille innocente ou que quelque chose puisse tourner mal durant sa période de détention. Il a du mal à imaginer qu'une enfant, même si elle vient du passé et a communiqué avec le technocentre, constitue une menace pour la toute-puissante Pax ou la Sainte Église. Le père capitaine de Soya ravale ses pensées. Son rôle ne consiste pas à imaginer. Son rôle consiste à exécuter les ordres de ses supérieurs et, à travers eux, à servir l'Église et Jésus-Christ.
« Voilà votre intrus !»
fait la grosse voix du sergent Grégorius. L'affichage est flou. La tempête de sable est encore violente, mais les 5 gardes suisses ont réussi à se poser sur le site où la cible s'est écrasée. Le père capitaine augmente la résolution de sa visière et voit un éparpillement de bois et de carton avec un tas de ferraille tordue qui était probablement un simple moteur hors-bord à pulsation fonctionnant sur batterie solaire.
« Un drone !» décrète le caporal Key.
De Soya remonte sa visière et sourit à la commandante. « Encore un exercice, » dit-il. « Le 5e aujourd'hui. » Elle ne lui rend pas son sourire. « La prochaine fois sera sans doute la bonne, » dit-elle. Dans son micro-tactique, elle annonce « Niveau 5 toujours en vigueur. À l'heure S-60, nous passerons au niveau 6. » Le signal de confirmation se fait entendre sur toutes les fréquences. « Je ne vois toujours pas qui pourrait chercher à s'interposer, ni comment, »
fait De Soya.
La commandante Barnes Avni hausse les épaules. Les extros sont peut-être en train de débouler sur nous à une vitesse C+, pendant que nous parlons.
Dans ce cas, ils ont intérêt à faire venir un essaim entier. Moins que ça, et nous n'aurons pas de mal à les écraser.
Dans la vie, rien n'est jamais facile, déclare la commandante Barnes Avni. Le glisseur se pose, le sas se met en marche et la rampe se déploie. Le pilote se tourne dans son fauteuil, remonte sa visière et déclare
« Commandante, vous vouliez inspecter le Sphinx à l'heure S-110 minutes. Nous avons 60 secondes d'avance. »
De Soya se déconnecte de la console du glisseur.
« Je vais me décourdir un peu les jambes avant l'arrivée de la tempête de sable, » dit-il.
« Vous voulez faire comme moi ?»«
Non. »
Barnes Avni abaisse sa visière et commence à chuchoter quelques ordres. À l'extérieur, l'air est raréfié et chargé d'électricité. Au-dessus de leur tête, le ciel a toujours la coloration lapis caractéristique d'Hyperion, mais déjà le bord sud du canyon miroite à l'approche de la tempête de sable. De Soya jette un coup d'œil à sa montre. 1h50. Il prend une profonde inspiration, se promet de ne plus regarder l'heure pendant 10 bonnes minutes et s'avance dans l'ombre haute du Sphinx.
Chapitre 12. Au bout de plusieurs heures de conversation, on m'envoya me coucher jusqu'à 3h du matin. Naturellement, je ne fermais pas l'œil. J'ai toujours eu du mal à trouver le sommeil la veille d'une expédition, et cette nuit-là, je ne dormis pas du tout. La ville dont je portais le nom était parfaitement silencieuse passé minuit. La brise d'automne s'était calmée, et les étoiles brillaient d'un éclat vif. Pendant 1 heure ou 2, je restais allongé en chemise de nuit, mais à 1h du matin, je me levais, revêtis les habits de voyage qu'on m'avait donnés la veille et me mis en devoir d'inspecter, pour la 5e ou 6e fois, le contenu de mon paquetage. Il n'y avait pas grand-chose, compte tenu du caractère audacieux de mon entreprise. Un ensemble de vêtements et de sous-vêtements de rechange, une lampe laser, 2 gourdes, un poignard dont j'avais spécifié le type, passé dans un étui de cuir, une grosse veste en toile à doublure chauffante, une couverture ultra légère à utiliser comme un sac de couchage, un compas inertiel, un vieux sweater, des jumelles de vision nocturne et une paire de gants de cuir.
Qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour explorer l'univers ?
Murmurai-je. J'avais aussi précisé le type des vêtements dont j'avais besoin pour mon expédition. Une grosse chemise confortable et une veste en toile à poches multiples. Un pantalon épais en velours côtelé, comme ceux que je portais pour chasser le canard dans les marais, des bottines hautes du type boucanier, comme dans les histoires de grand dame, celle-ci était peut-être un peu trop serrée, et un chapeau tricorne souple que je pouvais ranger dans une de mes poches quand je ne m'en servais pas. Je passai le poignard à ma ceinture, mis la boussole dans une poche de ma veste, et me postai devant la fenêtre pour contempler les étoiles qui défilaient lentement au-dessus des cimes jusqu'à ce que Abétik vienne frapper à ma porte à 2h45. Le vieux poète était éveillé, dans son siège flottant, au bout de la table au dernier étage de la tour. L'auvent de toile avait été retiré, et les étoiles brillaient d'un éclat froid au-dessus de leur tête. Les flammes pétillaient dans les braseros disposés le long du mur, et de vraies torches étaient placées en hauteur contre la pierre. Le petit déjeuner était servi. Viande froide, fruits, galettes de froment au sirop, pain frais, etc. Mais je me contentais d'une tasse de café.
« Feriez mieux de manger quelque chose, »
grommela le vieux poète.
« Vous ne savez pas quand vous aurez l'occasion de prendre votre prochain repas. »
Je le dévisageais tandis que la vapeur du café brûlant me montait au visage. L'air était glacé autour de nous. « Si tout se passe selon nos plans, je serai à bord du vaisseau dans 6 heures. Je mangerai à ce moment-là, » lui dis-je. Martin Silenus renifla avec dédain.
« Où avez-vous entendu dire que les choses se passaient selon les plans ? »
demanda-t-il. Je bus une gorgée de café. « À propos de plans, vous étiez sur le point de me parler d'un miracle propre à distraire l'attention de la garde suisse quand j'enlèverai votre petite copine sous leur nez. » Le vieux poète me regarda en silence durant un bon moment.
Faites-moi confiance sur ce point, voulez-vous ?
Je soupirai. Je m'attendais plus ou moins à ce qu'il me dise un truc comme ça.
« C'est un gros morceau que vous me demandez d'avaler sur parole, mon vieux, » murmurai-je.
Il hocha la tête, mais n'ouvrit pas la bouche.
« D'accord, » déclarai-je finalement. « Nous verrons bien ce qui va se passer. »
Je me tournai vers Abétique, qui se tenait près de l'escalier. « Tâchez de ne pas oublier d'être là avec le vaisseau quand nous aurons besoin de vous, » lui dis-je.
« J'y serai, » me répondit l'androïde.
Je m'avançai vers l'endroit où le tapis Hawking était déployé par terre. Abétique avait posé mon paquetage dessus. « Pas d'instruction de dernière minute ?» demandai-je sans savoir exactement auquel des deux je m'adressais. Le vieillard se laissa flotter vers moi sur son siège-lit. À la lueur tremblante des torches, il paraissait plus vieux et plus parcheminé que jamais. Ses doigts n'étaient que des os jaunis.
« Une seule chose, »
me dit-il,
« écoutez. Dans la mer immense habite un pauvre être isolé, condamné, avec sa carcasse affaiblie, à prolonger de 10 siècles son existence au nid, puis à mourir dans un isolement banni. Qui peut concevoir une autre alternative ? Personne. » Un million de fois le ciel tonne, les forces vives de l'océan puissant avancent et reculent sur le rivage bruissant en l'oppressant. Mais il ne mourra pas ici, ce labeur accompli. Qu'il sonde au maximum les profondeurs de la magie, que de toute forme, de tout mouvement et de toute vie, il explore la signification cachée, qu'à son essence symbolique il réduise chaque substance, il ne périra qu'à son heure. Poursuivant son œuvre de joie et de douleur, il devra pieusement recueillir les amants rejetés par les éléments sur le rivage dément et les aligner côte à côte jusqu'à ce que le lent mouvement du temps remplisse l'espace béant. Cela fait, toutes ses tâches accomplies et par ses efforts mûris, un jeune homme aimé et poussé par les forces célestes se présentera devant lui comme tout le reste pour qu'il le guide vers son accomplissement final et son destin total. Mais le jeune élu devra réussir, sous peine avec lui, de se voir détruire.
« Hein ? » murmurai-je. « Je ne vois pas le... »«
Taisez-vous, bordel ! »
m'interrompit le poète.
« Contentez-vous de retrouver Aînée, de la conduire chez les extros et de la ramener ici vivante. Ce n'est pas compliqué. Même un berger devrait être capable de faire ça.
Pas seulement berger, mais apprenti paysagiste, barman et chasseur, » lui rappelai-je en posant ma tasse de café.
« Il est bientôt 3 heures, »
fit Silenus.
« Il faut partir. »
Je pris une grande inspiration. « Attendez. » Je descendis rapidement l'escalier, allai me soulager aux toilettes et m'adossai, haletant, au mur de pierre froide. « Tu n'es pas fou, Roland Dimion ?» C'était une pensée, mais je l'avais entendu formuler dans ma tête par la voix douce de grande dame. « Complètement, » répondis-je muettement. Je remontai les marches, surpris de sentir trembler mes jambes et battre mon cœur. « Je suis prêt, » déclarai-je. Ma mère m'avait toujours appris à prendre mes précautions avant un départ. Le poète millénaire laissa entendre un grognement et fit flotter son siège jusqu'au tapis Hawking. Je m'y installai, activai les fils de commande et flottai à 1 mètre au-dessus du sol.
« Souvenez-vous, »
me dit Silenus,
« dès que vous serez dans la faille et que vous trouverez l'entrée, le reste sera programmé. »«
Je sais, vous m'avez déjà... »«
Taisez-vous !»
fit-il en désignant d'un doigt parcheminé l'un des motifs de vol.
« Vous vous rappelez comment ça marche? Une fois à l'intérieur, tapez là, là et là, et le programme se chargera de tout. Si vous voulez interrompre la séquence pour passer en vol manuel, vous appuyez sur ce motif d'interruption ici. »
Ses doigts caressèrent l'air au-dessus d'un dessin affadi par le temps.
« Mais n'essayez pas de trouver votre chemin tout seul. Vous vous perdriez à coup sûr.
Je hochai la tête en passant le bout de ma langue sur mes lèvres desséchées.
Vous ne m'avez pas dit qui a fait cette programmation? Qui a déjà accompli ce voyage?
Le satyre exhiba ses dents neuves.
Moi, mon garçon. Il m'a fallu des mois, mais j'ai réussi. Il y a près de 2 siècles.
2 siècles? M'exclamai-je en tombant presque du tapis. Et s'il y a eu des effondrements? Des glissements de terrain dus à un séisme? Si un nouvel obstacle a surgi?
Il haussa les épaules.
À 200 km/h, vous n'auriez aucune chance, mon garçon. Vous péririez, c'est sûr.
Il me donna une petite tape dans le dos.
Partez maintenant. Dites à Aîné que son oncle Martin l'aime et qu'il attend de revoir l'ancienne terre pour mourir. Dites-lui que le vieux Bouc a hâte de l'entendre explorer pour lui la signification de toute forme, tout mouvement et toute vie.
Je fis monter le tapis Hawking d'un nouveau demi-mètre. Abétique s'avança et me tendit une main bleue. Je la serrai.
« Bonne chance, Achandimion, » me dit-il.
Je hochai silencieusement la tête, ne trouvant rien d'autre à dire. Puis je quittai la tour en m'élevant en spirale. Pour voler directement de la cité d'Endymion au milieu du continent d'Aquila jusqu'à la vallée des tombeaux du temps sur le continent d'Eclus, j'aurais dû mettre le cap pratiquement au nord, mais je pris la direction de l'est. Mes essais de vol de la veille, mais pour mon esprit fatigué c'était toujours la même journée, m'avaient montré que je n'avais aucun mal à maîtriser les commandes du tapis Hawking, mais je n'avais pas dépassé une vitesse de quelques kilomètres à l'heure. Lorsque je fus à 100 mètres au-dessus de la tour, je réglai mon cap, la lampe entre les dents pour éclairer le compas inertiel, en alignant le tapis sur l'itinéraire indiqué par le vieux poète sur la carte d'état-major qu'il m'avait donnée. Puis je posai ma main à plat sur le motif d'accélération du tapis, qui acquit progressivement de la vitesse tandis que s'activait le champ de confinement destiné à me protéger du vent. Trop tard, je tournai la tête pour essayer d'apercevoir une dernière fois la tour et peut-être le vieux poète en train de me regarder m'éloigner à la fenêtre. Mais déjà les ruines de la vieille université s'étaient fondues dans l'ombre de la montagne. Il n'y avait pas d'indicateur de vitesse. Je supposais que le tapis volait à sa vitesse maximale en direction des hauts sommets de l'Est. La lumière stellaire faisait étinceler les glaciers plus haut que moi. Par prudence, je rangeai ma lampe, sortis mes lunettes de vision nocturne et continuai de vérifier ma position à l'aide de la carte. À mesure que le relief s'élevait, je m'élevais aussi, maintenant le tapis à 100 mètres au-dessus des rochers, cascades et couloirs d'avalanches qui brillaient d'une lueur verdâtre à la lumière amplifiée par les lunettes. Le tapis ne faisait aucun bruit et même la rumeur du vent était étouffée par l'action de déflexion du champ de confinement. À plusieurs reprises, j'aperçus d'assez gros animaux qui bondissaient pour se cacher, surpris par l'apparition au-dessus d'eux de ce gros oiseau sans ailes. Une demi-heure après avoir quitté la tour, je franchis la ligne de partage des eaux, maintenant le tapis au centre du couloir large de 5000 mètres. Il faisait plus froid à cet endroit. Malgré la bulle d'air du champ de confinement qui retenait une partie de ma chaleur humaine, j'avais depuis longtemps revêtu ma veste chauffante et mes gants. Derrière les montagnes, descendant rapidement pour coller le plus possible au terrain, je constatais que la toundra cédait la place à des zones marécageuses, puis à des épineux bleus et à des tritrembles. Ensuite, ces arbres de haute montagne se raréfièrent et disparurent complètement lorsque la lueur des forêts des flammes de Tesla commença à embraser l'horizon à la manière d'une aube factice. Je rangeai les lunettes de vision nocturne dans mon paquetage. La vue était à la fois superbe et effrayante. Tout l'horizon à l'est était crépitant d'électricité. La foudre en boule bondissait d'une cime à l'autre des Tesla géants de 100 mètres de haut. Les éclairs en chaîne se succédaient dans l'air entre les Tesla et les Prométhées explosant, tandis que les buissons phénix et les feux de terre épars brûlaient dans des milliers d'endroits. Martin Silenus et Abétique m'avaient mis en garde contre le danger qu'ils représentaient pour moi, et je repris un peu d'altitude au risque d'être détecté plutôt que d'être pris dans l'enfer électrique qui faisait rage au-dessous de moi. Une heure s'écoula ainsi.
je vis poindre l'aube à l'est, au-delà de la forêt des flammes. Au moment où le ciel commençait à pâlir sérieusement, la forêt prit fin derrière moi et j'aperçus la faille. J'avais conscience de n'avoir pas cessé de grimper durant les 40 dernières minutes, tout en cherchant ma route au-dessus du plateau du Pignon avec ma carte froissée, mais je ne ressentis vraiment une impression d'altitude qu'au moment où les profondeurs de la crevasse qui fendait cette région d'Aquila devinrent visibles devant moi. D'une certaine manière, la faille était tout aussi effrayante que la forêt des flammes. Ses parois étroites et verticales plongeaient de 3000 mètres à partir du plateau. Je la pris en enfilade à son extrémité sud et m'enfonçai dans ses profondeurs vers le fleuve qui coulait 3 kilomètres plus bas. À un moment, la faille obliquait à l'est. Le fleuve au-dessous de moi coulait bruyamment, dans le même sens et presque à la même vitesse que mon tapis dès que j'eus ralenti un peu. Quelques minutes plus tard, le ciel s'assombrit au-dessus de ma tête et les étoiles se remirent à briller. J'avais l'impression d'être tombé dans un puits profond. L'eau bouillonnait bruyamment au pied des parois vertigineuses, charriant de la glace, cascadant sur des rochers de la taille du vaisseau spatial que j'avais laissé derrière moi. Je survolais toute cette écume à 5 mètres d'altitude. J'avais encore ralenti. Je ne devais plus être très loin. Je consultais ma montre, puis la carte. Ce devait être devant moi à 2 kilomètres au maximum. C'était plus grand qu'on ne me l'avait décrit, environ 30 mètres de côté. Et cela formait un carré parfait. L'accès du labyrinthe planétaire avait été taillé à la manière d'une entrée de temple à laquelle il ne manquait qu'une porte géante. Je ralentis encore le tapis, l'inclinai sur la gauche et m'arrêtai juste à l'entrée. D'après ma montre, il m'avait fallu un peu moins de 90 minutes pour arriver ici. La vallée des tombeaux du temps était encore à 1 millier de kilomètres au nord. 4 heures de vol à une vitesse de croisière élevée. Je consultais de nouveau ma montre. Dans 4h20, si tout se passait comme prévu, l'enfant sortirait du sphinx. J'entrais lentement dans la caverne avec le tapis. J'essayais de me rappeler les détails du récit du prêtre dans les Cantos. Je savais seulement que c'était là, juste à l'entrée du labyrinthe, que le père Duré et les Bicurins avaient trouvé le Gritch et les cruciformes. Mais il n'y avait pas de Gritch en vue. Ce qui ne me surprenait guère. La présence de la créature n'avait pas été signalée depuis la chute du Retz, 274 ans plus tôt. Et il n'y avait pas de cruciformes. Mais cela ne me surprenait pas non plus. Il y avait longtemps que la Pax les avait tous décollés des parois. Je n'en savais pas plus que n'importe qui sur le labyrinthe. Il y avait 9 mondes labyrinthiens connus dans l'ancienne hégémonie. Tous étaient du type Terre, classés 7,9 au moins sur l'échelle de Solmef, à cette exception près qu'ils étaient tectoniquement morts et ressemblaient davantage à Mars qu'à la Terre sous cet aspect. Des réseaux de galeries taraudaient chacune des 9 planètes labyrinthiennes, Hyperion y compris, sans que personne leur ait jamais découvert une utilité précise. Les galeries dataient d'une époque qui remontait à des dizaines de milliers d'années avant que l'humanité ait quitté l'ancienne Terre. Cependant, aucune trace de leur constructeur n'avait jamais été trouvée. Ces labyrinthes alimentaient d'innombrables mythes, parmi lesquels les Cantos, mais leur mystère n'avait jamais été percé. Celui d'Hyperion n'avait jamais fait l'objet d'aucun relevé en dehors de la section que je m'apprêtais à traverser à 270 km à l'heure. Et c'était un poète fou qui en avait tracé la carte. Correctement, je l'espérais. Je remis mes lunettes de vision nocturne tandis que les ténèbres se refermaient autour de moi. Dans un moment, elles allaient être totalement inutiles car il n'y aurait plus la moindre lumière à amplifier. Je sortis un rouleau d'adhésif de mon paquetage pour fixer la lampe laser à l'avant du tapis en réglant la diffusion sur faisceau large. Cela donnerait peu de lumière, mais les lunettes se chargeraient de l'amplification. Déjà, j'apercevais l'embranchement. La caverne, à l'intérieur, gardait la forme d'un grand prisme quadrangulaire creux de 30 mètres de côté, avec à peine quelques signes d'effritement ou de dégradation. Un peu plus loin, il y avait des galeries qui partaient à droite, à gauche et vers le bas. Je pris une profonde inspiration et tapai la séquence programme. Le tapis Hawking bondit en avant, puis accéléra jusqu'à la vitesse pré-réglée. Le mouvement soudain avait failli me faire tomber en arrière malgré l'effet compensateur du champ de confinement. Ce champ ne me protégerait nullement si le tapis prenait un mauvais virage et s'écrasait à cette vitesse contre la paroi. La roche défilait de part et d'autre. Le tapis s'inclina pour prendre un virage serré sur la droite, se mit à l'horizontale au centre de la longue caverne, puis s'inclina cette fois-ci en avant pour prendre la galerie qui descendait. C'était terrifiant à voir. Je retirai de nouveau mes lunettes pour les ranger, m'agrippai aux franges du tapis et fermai les yeux. J'aurais pu éviter toute cette peine. L'obscurité était maintenant absolue.